autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, pour réécouter tout l'été les plus grandes voix de la recherche. Hommage aujourd'hui à l'un de nos plus grands penseurs, le philosophe et historien des sciences Michel Serres. Grand esprit pétillant, formidable passeur, humaniste et optimiste, à la curiosité intarissable et qui rendait intelligent tous ceux qui l'écoutaient penser le monde et ses transformations. Michel Serres disparut le 1er juin 2019, à l'âge de 88 ans, nous avait accordé en 2014 un entretien en direct, les yeux dans les yeux, pour la parution de son ouvrage intitulé précisément « Yeux », dans lequel il s'interrogeait sur les mille et une manières de voir et d'être vu, de regarder le monde et d'être regardé par lui. Qu'est-ce qui se joue dans l'œil de l'aigle ou du crotal, dans celui du peintre à travers la lunette de l'astronome ou même dans la vision des mystiques? Comment d'autres mondes se reflètent jusque dans les éclats de diamants et dans les milliards d'yeux qui nous regardent aussi? Autant de questions inédites soulevées par ce formidable passeur de savoir, aux yeux décidément grands ouverts sur les autres. Autour de la question comment voir et être vu, bienvenue sur et dans la voix inimitable du maître. Délicieux philosophe Michel Serres, rediffusion du 18 novembre 2014. Bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec
Merci
nous.
Merci de m'avoir invité d'abord.
En tout cas, vous allez nous aider à regarder et à écouter, puisqu'on est à la radio, le monde autrement, les yeux dans les yeux, car le philosophe et historien des sciences que vous êtes, membre de l'Académie des sciences, auteur de nombreux essais qui ont fait date, a pour habitude de voir, Michel Serres, ce que les autres ne voient pas ou pas encore, de scruter les mutations de notre monde avec un regard d'avance, de cet œil bleu perçant qui vous caractérise à la fois alerte et bienveillant. Et je me dis que c'est peut-être cela qui vous a donné l'envie de ce nouveau livre magnifique, « Yeux », qui vient de paraître aux éditions du Pommier. C'est pour partager votre vision justement d'un monde qui nous regarde aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mon livre essaie de changer la perception que nous avons du monde. Tout simplement parce que il m'est arrivé souvent de tomber en admiration devant des yeux de lamantin, devant des yeux de poisson, devant des yeux d'aigle, de colombe, et même de mouche, et de serpent.
Même des yeux de mouche.
Et
oui,
les yeux de mouche sont extraordinaires. C'est des yeux facettes, à milliers de facettes, et je me demande souvent, mais quel monde ces animaux voient-ils? Parce que nous, quand nous regardons le monde, nous savons que le monde que vous regardez, vous, n'est pas tout à fait le même que le mien. Le monde que regarde un Africain n'est pas tout à fait le monde que regarde un Parisien. Le monde que regarde un Indien d'Amazonie n'est pas tout à fait le monde d'un Africain. Mais que je sache, c'est toujours des mondes humains. C'est toujours des mondes que voient des hommes, deux pères Dieu dans un visage humain. Mais est-ce que nous sommes sûrs que ce soit le vrai monde?
Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres,
hein? Et voilà. Et les autres sont probablement les mondes que voient, eh bien, les animaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire que ce soit des poissons, des quadrupèdes ou des oiseaux, ou des insectes, ils voient donc un monde. Et j'ai imaginé dans le livre quelque chose qui serait, à mon avis, le couronnement de mon livre. Ce serait, si j'étais milliardaire, ou s'il y avait un milliardaire parmi mes auditeurs, qui viennent me voir, et nous ouvririons un musée.
On ouvrirait un musée des manières de voir?
Oui. Et alors, en général, quand vous rentrez dans un musée, qu'est-ce que vous voyez? Des toiles de maîtres. Mais ces maîtres sont toujours des hommes ou des femmes, vous voyez, qu'ils soient d'ailleurs africains, asiatiques, français, américains, n'importe quoi. Ce sont des hommes, à homo sapiens. Mais j'aimerais voir faire un musée où il y ait des toiles, où on voit le monde vu, enfin, disons,
un paysage,
oui, vu par une mouche, vu par un crotal, comme vous avez dit, vu par une grenouille, vu par une colombe, vu par un aigle, etc.
Le musée de Michel Serres.
Et là, on verrait vraiment se construire le vrai monde. Parce que le vrai monde, nous sommes très, très narcissiques, puisque nous voyons toujours le même monde, c'est le monde humain, vous voyez. Ajouter au monde humain ces mondes-là. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, je dis, mais voyons, le monde, la lumière reflétée par les pierres précieuses, vous promenez dans les forêts, et les feuilles mortes
rouge, hein.
sont rouges, les feuilles mortes sont, etc., elles reflètent une lumière curieuse, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ces feuilles me regardent aussi, vous voyez, un peu comme eux, les animaux me regardent.
Autour de la question « Comment voir et être vu ?», on va ouvrir avec vous, Michel Serres, grand nos yeux et nos oreilles, pour écouter cette fois-ci le mix visionnaire, évidemment, de Charles Bellabon.
Lorsque nous regardons le monde, est-ce que c'est le vrai monde ?
Qu'est-ce qu'il faut pour que l'œil devienne regard ?
Est-ce qu'on se fie aux seules apparences ?
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
J'ai toujours rêvé de voir le monde avec des yeux à facettes comme ceux des insectes.
Il y a une connexion très intime entre vision et audition.
Je suis quand même un peu perdue. Par où on regarde dans ce grand télescope ?
Regarde mieux. À ton avis, pourquoi je t'ai doté d'un œil magique ?
En quoi la nature nous regarde-t-elle ?
Les couleurs ont différentes fonctions chez les papillons. Et une des fonctions qui est assez amusante, c'est une fonction de défense.
Oh, vu ! Je l'avais pas vu !
Est-ce que l'on perçoit mieux les choses quand on est privé de la vue, quand on n'a pas l'image comme obstacle ?
L'information visuelle compte beaucoup pour quelqu'un qui a vu jusqu'à présent. Et tout le monde ne voit pas par ses yeux.
C'est tellement formidable, la radio. Ça laisse tellement de place à l'imagination.
Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on ne voit plus. On me voit, on ne voit plus.
Quand nous, nous nous voyons, d'autres nous regardent aussi.
Les diamants, les saphirs, les émeraudes, etc. Ils renvoient de tels reflets que j'avais l'impression que c'est un œil de la nature.
J'ai vu le grand secret des ombres. Cette nuit, la lune a parlé. Elle s'est déshabillée sous mes yeux et son corps a bouleversé mon regard.
Faut-il des yeux pour avoir un regard ?
Faut-il des yeux pour avoir un regard ? Vaste question, Michel Serres, à laquelle on va tenter de répondre ensemble autour de la question « Comment voir et être vu ?» Alors, chaque œil est unique, Michel Serres, mais comment voit-on ? On va commencer par nous, les humains, avec nos deux yeux. Comment voit-on ?
Oui, mais bien sûr, il y a deux choses. Il y a la sensation visuelle telle qu'elle est connue par les cellules même de l'œil, vous voyez, les cellules visuelles, la rétine, etc. Et d'autre part, il y a tous les conduits nerveux qui vont vers le cerveau. Et le cerveau a évidemment un centre visuel où l'information en question est traitée. Par conséquent, le regard appartient aujourd'hui à deux disciplines. L'optique, d'un côté, qui est, si vous voulez, la discipline des ophtalmologues, d'une part, mais d'autre part aussi, et surtout maintenant, des sciences cognitives.
De ceux qui s'occupent du cerveau.
C'est ça. C'est-à-dire, on connaît maintenant beaucoup de choses sur les neurones qui conduisent telle et telle sensation. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est les sciences cognitives qui sont un peu les pilotes de la réponse à cette question. Voilà.
Parce qu'en fait, pour voir, donc vous l'avez dit, il faut d'abord capter la lumière, mais ensuite, il faut...
Il y a une construction par le cerveau.
Il y a une construction. Voit, c'est ce qu'on croit voir comme ça, c'est une construction, reconstruction de notre cerveau.
Mais c'est-à-dire que c'est justement ça qui est difficile dans la question que je posais tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je disais, changeons un peu notre regard. Ne soyons pas seulement humains, mais essayons de regarder comment regardent les animaux, etc. Mais c'est très difficile parce qu'il y a d'une part les cellules visuelles de l'œil de la mouche, que nous connaissons très bien, qui est un facette, etc.
Oui, mais, ça, elle capte la lumière comme
d'accord,
nous.
D'accord, mais non, pas comme nous, parce
pas
que l'œil, l'œil à facette n'est pas tout à fait la rétine humaine. Mais d'autre part, quel est le traitement neuronique, neurologique du cerveau de la mouche, du cerveau du crotale, du cerveau de l'aigle ou du poisson ?
Oui, c'est ça. Non seulement ils n'ont pas la même vision, la même altitude, évidemment, par rapport aux choses, mais ensuite, est-ce qu'ils construisent ou pas ?
Ah ben oui, de la même façon que nous. Mais bien sûr, ils ont un système nerveux comme nous. Et par conséquent, là aussi, les sciences cognitives doivent s'avancer sur l'étude très précise du cerveau de tel et tel animal. D'ailleurs, c'est en train de se faire. Vous voyez donc le renversement que je propose dans mon livre, c'est-à-dire de construire le vrai monde, le monde vu par tous ces sujets,
yeux,
si vous voulez.
Oui.
Parce que dans ce cas-là, ce sont des sujets, il n'y a pas que nous qui soyons des sujets. Ça fait une sorte de rééquilibration, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui est dans la nature est aussi actif que nous, en général.
Pas parce que vous allez même jusqu'aux diamants ou aux micas,
oui.
Eux, ils ne voient pas, mais ils captent aussi.
Ils traitent la lumière, ils captent la lumière, ils la reçoivent, ils la renvoient, ils la traitent, ils la stockent, etc. Un peu comme nous recevons de l'information, nous émettons de l'information, nous stockons de l'information et nous traitons de l'information, vous voyez. Et par conséquent, il y a là un renversement de point de vue que je propose dans mon livre, qui n'est pas seulement le regard humain, mais le regard construit, comme vous dites, comme on le fait par les sciences cognitives, mais aussi un renversement de point de vue qui qui amène, si vous voulez, à une vision du monde complètement différente.
Autour de la question « Comment voir et être vu ?», on écoute une autre vision du monde, celle de Mo Calamity sur RFI.
Raising your eyes to all the people. Vision of ordinary thing that is zero. We remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity.
Mo Calamity, vue du Cap-Vert sur RFI, autour de la question comment voir et être vu, les yeux dans les yeux du philosophe Michel Serres, notre invité qui nous fait découvrir dans son dernier ouvrage Yeux, les mille et une manières de voir et d'être vu, comme on voit un poisson, une abeille, un rat ou un aigle. Écoutez l'éclairage du généticien Jean Deutsch, grand amateur et auteur d'histoire naturelle.
Il y a une chose qui est reconnue depuis longtemps, qui est l'œil d'aigle, qui est plus performant dans le sens qu'il y a une acuité visuelle plus grande que l'œil humain. Mais ça, au fond, il n'y a pas une grande différence entre un œil d'aigle. Et d'ailleurs, les yeux des vertébrés, en général, sont très peu différents les uns des autres. Mais il y a des yeux, par exemple, les yeux de la menthe de mer. Les yeux de la menthe de mer sont capables de reconnaître quinzaine de couleurs différentes, alors que nous avons trois couleurs primaires. Et encore, la plupart des mammifères n'ont que deux couleurs primaires. Et à partir de ça, nous distinguons les couleurs en mélangeant ces couleurs primaires. Il y a des animaux qui ont des possibilités tout à fait étranges, aussi bien chez les araignées que chez des petits crustacés minuscules qui font partie de plancton. On trouve des yeux avec un système de téléobjectif. Donc, je ne sais pas si vous voyez un système de téléobjectif dans un animal qui fait moins d'un millimètre. Donc, ça lui permet d'avoir une vision, finalement, à distance. C'est incroyable.
Nous, on n'a pas de téléobjectif intégré.
C'est très instructif, en effet, il a raison. Par exemple, nous savons que les abeilles voient dans un spectre de couleurs très différent de la nôtre, puisqu'ils voient même l'infrarouge ou l'ultraviolet. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, même les couleurs sont différentes dans la perception d'une petite, un petit organisme comme celui d'une abeille.
Elle voit beaucoup plus de couleurs que nous, un champ plus élargi.
Un champ plus élargi, exactement. Et c'est un peu le correspondant de l'objectif dont parle M. Jean Deutz, évidemment.
Pour ces, voyez, pour ces donc, tout petits crustacés.
Donc la perception visuelle des animaux est ou assez proche de la nôtre, dans le cas évidemment de nos cousins, si vous voulez, de nos cousins les vertébrés, mais très différente lorsqu'il s'agit, quand on rentre dans le monde des insectes ou dans le monde des poissons.
Vous aimez bien les oiseaux. Yeux des poissons, hein,
oui.
Michel Serres, ah, vous touche.
C'est peut-être même un œil de poisson qui a été décisif pour l'écriture de ce livre.
Qu'est-ce que vous y voyez dans les yeux des poissons?
C'est-à-dire, j'ai rencontré une photographie un jour faite par un biologiste suédois d'un poisson de très grande profondeur, batique, vous voyez, et qui avait un œil d'une mélancolie, d'une expressivité extraordinaire. On avait l'impression, si vous voulez, qu'il allait pleurer. Et qu'il allait pleurer tellement qu'il allait remplir l'océan de larmes.
C'est, voyez, peut-être ça, au fond.
C'est ça. Et ça m'a tellement bouleversé que j'ai dit, mais il faut que je rentre un peu plus dans cette perception-là. Et ça a été peut-être un des moments d'émotifs, si vous voulez, décisifs pour l'écriture de ce livre.
Alors, hein, ce livre qui a pour couverture un lieu, des yeux, oui, enfin...
Oui, des ocelles.
Des ocelles
de Pan. Oui.
De Pan.
Alors voilà, c'est une vieille histoire, mais une histoire d'adultère. Et d'adultère commis, non pas par n'importe qui, mais par un dieu, et même par le roi des dieux, par Jupiter. Alors Jupiter, c'était l'époque, vous savez, très lointaine, il y avait des nymphes dans les prés, des naïades dans les rivages, etc. Et tout aussi dieu qu'il était, il n'était pas moins homme, et évidemment, il courait un peu la gueuse, forcément. Je ne dirais pas qu'il aurait le jupon, parce que ses naïades étaient quand même assez court vêtues.
Oui, bon, déjà très bien. Dévêtues, oui.
Voilà. Et seulement, il était marié. Et Junon était très jalouse. Sa femme était aussi puissante que lui. Alors, elle envoyait évidemment des détectives pour le surveiller. Mais lui, non. Il était beaucoup plus astucieux que ça. Il se métamorphosait. Et alors, évidemment, quand le détective voyait un taureau couvrir une génisse dans un champ, il se doutait de rien.
Alors que c'était le dieu Jupiter.
C'était Jupiter qui était transformé en taureau, évidemment. Bon. Et alors, Junon s'en est aperçu, et elle a envoyé quelqu'un de nouveau, et c'est là que commence mon livre. Elle a envoyé quelqu'un qui s'appelait Argus, mais qui s'appelait aussi Panoptès. Panoptès, comme le panoptique, celui qui voit tout. Et pourquoi? Parce qu'il avait sur lui des milliers d'yeux. Il n'avait pas, comme vous et moi, deux yeux devant lui. Il en avait partout sur le corps,
derrière, à côté,
sur les épaules, dans le dos, dans les cuisses, partout. Et donc, il pouvait voir partout, dans toutes les directions, mais il pouvait voir aussi dans le temps. C'est-à-dire, pendant que la moitié des yeux dormaient, les autres veillaient. Et ceux qui étaient fatigués s'endormaient à ce moment-là, et les autres se réveillaient. Et par conséquent, ils pouvaient voir Jupiter à l'état de Jupiter et Jupiter à l'état de taureau. Donc Jupiter était battu.
D'où la force du panoptique.
C'est la panoptique, c'est ça.
Et le des yeux qui sont sur la parure du pont.
Voilà, attendez. Il faut
on n'y est pas encore?
Non, on n'y est pas encore, parce qu'à ce moment-là, Jupiter a gagné. Non, Jupiter a perdu, puisque Panoptès l'observe. Et à ce moment-là, Jupiter prend à sa rescousse un nouveau dieu qui s'appelait Hermès. Et à cette époque-là, très lointaine, on n'avait pas encore inventé la musique. Alors Hermès arrive à une flûte de Pan, et la flûte de Pan bouleverse tellement Panoptès qu'il met à pleurer, et ses yeux s'embuent, et il ne voit plus rien.
Tous ses yeux se mettent à pleurer.
Et à ce moment-là, Hermès prend un coupe-chou et le tue. Et donc, la pauvre Junon est perdue, et puisque le cadavre de Panoptès gît devant elle. Et à ce moment-là, elle prend tous les yeux de Panoptès dans sa main, et à ce moment-là, un oiseau est en train de passer. Et elle jette de dépit ses yeux, qui couvrent tout d'un coup tout le plumage du Pan.
Et voilà les ocelles du Pan.
Et le Pan porte les yeux de Panoptès quand il fait la roue. Il montre les yeux de Panoptès, le panoptique, et tout se passe comme si le Pan me voyait.
Mais en même temps, c'est une défense pour le Pan, du coup.
Attendez, il y a quelque chose qui m'intéresse, parce que la lutte entre Hermès et Panoptès, c'est la lutte de l'audio contre le visuel. C'est-à-dire que de vous contre la télé.
Attention, vous êtes qui à la radio. Hein.
Eh bien voilà. Et c'est-à-dire, audio, c'est Hermès, et Panoptès, c'est le visuel.
I try.
Les yeux et les oreilles grands ouverts à l'écoute de Michel Serres, philosophe visionnaire qui nous a quittés le 1er juin dernier. Rediffusion de l'entretien que ce formidable passeur de savoir nous avait accordé le 18 novembre 2014 autour de la question « Comment voir et être vu ?» Voir les étoiles tomber, Barbara Carlotti sur RFI.
J'avance sans peur dans la dead zone.
Barbara Carlotti sur RFI, extrait de son album Magnétique, nous rendons hommage à Michel Serres, philosophe, humaniste et magnétique, disparu le 1er juin dernier avec la rediffusion de l'entretien que ce grand penseur et passeur de savoir nous avait accordé en novembre 2014 à la parution de son livre Yeux, autour de la question comment voir et être vu, comment changer de regard et de perspective sur le monde qui nous regarde autant que nous le regardons, nous qui sommes si visuels et qui avons aussi fabriqué des instruments pour voir toujours plus loin. Dans l'œil de l'astronome Jérémy Vaubaillon, on prend un peu de hauteur pour se retrouver les yeux dans les yeux avec Michel Serres.
Avec l'invention du télescope astronomique, les scientifiques ont disposé de l'outil qui leur a permis d'observer le système solaire à un niveau de détail plus poussé. Non seulement les télescopes ont facilité la découverte de deux planètes géantes supplémentaires, mais ils ont aussi permis aux astronomes d'observer pour la première fois la surface des planètes. L'étude continue du ciel, au cours des derniers siècles, a complètement modifié la perception que nous avons de notre place dans l'univers.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de progrès techniques, etc. Et peut-être qu'on a l'impression de mieux voir, on a plus de capteurs, on a plus de possibilités. Et en même temps, moi qui suis astronome, je pleure quand je suis à Paris parce qu'on ne voit plus le ciel. Donc d'un côté, on voit mieux la rue et d'un autre côté, on est complètement aveugle au ciel. Donc est-ce qu'au final, on voit de mieux en mieux ou de moins en moins ?
Michel Serres, que pouvez-vous répondre à l'astronome Jérémy Vaubaillon ?
C'est une vraie question. Il est vrai que quand on habite Paris, on ne voit pas le ciel. On ne voit pas le ciel même le jour, parce qu'on est plongé, si vous voulez, dans une sorte de canyon, qui est une rue, c'est un canyon, vous voyez. Et on a une portion de ciel extrêmement étroite, vous voyez. Et la nuit, on voit très peu les étoiles à cause de la pollution. Il a raison. Seulement, ce qui est intéressant, c'est de faire l'idée inverse. C'est-à-dire de prendre l'avion et de faire des photographies ou de la perception directe, de voir les lumières sur la Terre. Et quand on voit les lumières sur la Terre, je ne sais pas, l'Europe occidentale, des États-Unis, etc., on s'aperçoit que ce sont des constellations. Il y a la constellation Paris, il y a la constellation de la Roure, il y a la constellation Berlin, il y a la constellation Madrid et Londres, vous voyez. Et
vous nous invitez là encore à changer complètement
alors
de perspective.
On change de point de vue et on s'aperçoit que si on ne voit pas le ciel, eh bien on peut voir la Terre, mais on peut voir la Terre sur les lumières de la ville et que ce sont exactement des constellations. C'est très intéressant de s'apercevoir qu'une photo de la Terre aujourd'hui, c'est équivalent à une photo du ciel.
Autrefois, alors dans ce livre Yeux, vous faites aussi, toujours pour inverser le regard, l'éloge de la nuit et du noir, enfin de l'ombre pour voir la lumière justement.
Oui, c'est-à-dire c'est une vieille idée des philosophes que l'idée des lumières. Et l'idée des lumières consiste à dire qu'effectivement, le savoir, c'est la lumière. On voit mieux, et d'ailleurs, tous les mots philosophiques comme intuition, comme théorie, tout ça, c'est des vieux mots qui voulaient dire voir. Bon, très bien. Alors, évidemment, ça part de l'idée d'une un vieux racontard qui se trouve dans Platon, qui s'appelle la caverne, vous
le
rappelez
mythe de la caverne,
le
oui.
mythe de la caverne, il faut sortir de la caverne pour aller au soleil, pour voir les choses réellement. Et moi, je suis assez en colère contre ce mythe-là, parce qu'on croit que la lumière du soleil, c'est la lumière de la vérité. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait qu'une vérité, il n'y aurait qu'une source de lumière. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la science, c'est l'idéologie. Parce qu'en fait, les vérités sont multiples. Il y a des vérités mathématiques, et encore dans les mathématiques, il y a mille sortes de vérités, évidemment. Il y a des vérités physiques, il y a des vérités de type mythique, il y a des vérités de type littéraire, il y a des vérités de type humain.
Il y a plein de vérités.
Il y a plein de vérités.
Comme il y a plein de regards. Voilà.
Alors du coup, évidemment, le modèle du savoir, ce n'est pas le jour avec la lumière solaire unique, c'est au contraire la nuit avec la multiplicité des étoiles. La multiplicité des étoiles qui est justement groupée en constellations, la constellation mathématique, la constellation physique, comme je le dis tout à l'heure. Mais d'autre part, ces lumières qui sont toutes différentes, parce que toutes les étoiles brillent, l'une est bleue, l'autre est une supergéante rouge, une supergéante bleue, une autre qui s'appelle tête de méduse, qui a plusieurs couleurs, l'autre, etc. Vous voyez ? Ou une naine jaune même, le soleil est une naine jaune. Et seulement, elles brillent toutes différemment sur le fond noir du non-savoir. Et c'est exactement ça, le savoir. Par conséquent, dans mon livre, je dis que la nuit est un bien meilleur modèle pour comprendre ce que c'est que la science, que le savoir, que la connaissance humaine, que le jour. Parce que le jour, ça serait seulement l'idéologie qui a une seule vérité. Et ça, c'est de l'idéologie.
Vous-même, vos intuitions, souvent lumineuses, hein, quand même, Michel Serres, elles vous viennent la nuit ?
Oui, non, mais je veux dire que la nuit est un modèle objectif, vous voyez, c'est pas seulement de moi qu'il s'agit. Il s'agit exactement d'avoir une idée cohérente et intelligente de ce que c'est que le savoir. Oui.
Et le savoir, c'est aussi pour les hommes d'essayer effectivement de voir dans le noir, ou de voir dans l'espace, ou de voir plus loin, et de créer des instruments, pourquoi ? Pour voir de plus en plus loin dans l'espace, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, d'ailleurs.
Je crois que l'astronome l'a dit mieux que moi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux instruments que nous avons, par exemple, si vous voyez au 19e siècle une carte des planètes, vous avez des ronds et des sphères, c'est tout. Tandis qu'aujourd'hui, on connaît le paysage de Mars, le paysage de Vénus, on connaît le paysage de Jupiter. Il y a d'ailleurs, dans Jupiter, il y a une turbulence énorme, vous voyez, une sorte de d'œil de Jupiter, un œil énorme qui est une sorte de tourbillon dans lequel rentrerait deux ou trois fois la Terre, vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux le paysage précis et détaillé des planètes, si vous voulez, que je ne connaissais quand j'étais petit, les fermes du Lot-et-Garonne, bien sûr, avec plus de détails. Voilà. Et regardez par exemple la visée extraordinaire à 500 millions de kilomètres qu'on a fait pour atteindre avec un tout petit objet une comète qui est si petite qu'elle est la moitié de Paris seulement. Vous voyez ce qu'il faut viser pour toucher cette affaire-là. Vous voyez, donc là, il y a en effet des progrès gigantesques. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet de mon livre.
Non, mais c'est aussi le fait que l'homme, quand même, veut essayer de voir toujours plus loin ou d'améliorer, quand même, sa vision.
Oui, mais ça, c'est l'éloge de l'homme. C'est-à-dire, c'est toujours le narcissisme dont je parlais tout à l'heure. Ce que je voudrais, moi, c'est que le livre change le regard des lecteurs et qu'ils voient tout d'un coup que la nature n'est pas seulement un ensemble d'objets que nous pouvons voir, mais que c'est un ensemble de personnes, enfin de personnes, de sujets éventuels qui voient aussi, qui se voient les uns les autres et qui nous voient nous.
Et qui sont dotés de... d'yeux. On a parlé de l'exemple du paon, mais il n'y a pas que le paon. Les scarabées, les papillons, ils ont des yeux. Mais là, c'est pour être vu.
Oui, mais si vous voulez, l'idée de mon livre, c'est de changer le regard des gens et de donner un coup mortel au narcissisme humain. Voilà, tout simplement.
Tout simplement.
Nous sommes très orgueilleux de notre regard. D'ailleurs, quand un journaliste vous interroge, il dit « Quel est votre regard ?» Et toujours, c'est toujours le mot numéro un des journalistes.
Et vous, ça, c'est celui des autres, des animaux notamment, qui vous intéressent.
Exactement. La nature nous voit. Voilà.
Autour de la question « Comment voir et être vu ?» Je propose un nouvel éclairage. Alors, c'est encore celui d'un humain, parce qu'on n'arrive pas en radio encore à faire parler des animaux.
Bien sûr.
C'est cette fois celui d'un chercheur en robotique, un jeune chercheur qui s'appelle Nathanaël Jarassé. On l'écoute.
En robotique, disons que la vision, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est typiquement un domaine de recherche qui s'est beaucoup allié aux neurosciences pour arriver à progresser dans la compréhension et dans la réalisation de dispositifs bio-inspiré, biomimétique. Disons que c'est à la base de la plupart des systèmes robotiques qui se déplacent. Alors, des visions plus ou moins humaines dans des domaines de fréquences qui sont pas toujours de la lumière visible. Et donc, peut-être ce qu'ils pensent de l'impact de la vision sur la perception de notre corps. Est-ce que quelqu'un qui serait privé de ce sens aurait exactement la même représentation à partir des sensations restantes, proprioceptives, touchées, haptiques, etc. Ou est-ce que la vision est vraiment prépondérante là-dedans ?
Michel Servouqui, en tant que philosophe, avait beaucoup travaillé quand même sur la question du corps. Que pouvez-vous répondre à Nathanaël Jarassé ?
Bien sûr. Il y a deux mots en langue française pour dire ça. Il y a le mot vision et il y a le mot visite. C'est intéressant. Lorsque j'ai écrit mon livre Les Cinq Sens, le chapitre sur la vision ne s'est pas appelé vision, mais visite. Ça veut dire la vision en mouvement. C'est-à-dire, est-ce que dans le mouvement, on voit autrement que quand on ne bouge pas ? Et c'est là qu'un professeur, un de mes collègues de l'Académie des sciences, qui s'appelle Berthoz, a fait une découverte sensationnelle, parce qu'il s'est aperçu un jour que des professeurs de gym sont venus le voir, et en lui disant, il y a de nos étudiants qui vont être exclus du lycée pour être mis dans un lycée spécial pour aveugles, alors que ce sont nos champions de basketball. Et il marque de loin des paniers. Alors il faut examiner ça. Et c'est là que Berthoz a découvert qu'il y avait un sens nouveau. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas de la même manière quand on ne bougeait pas et quand on courait ou quand on marchait, etc.
On voit moins bien quand on court et quand
on
marche.
On voit mieux.
On voit mieux.
On voit autrement. C'est-à-dire que les élèves en question qui avaient été examinés en laboratoire, ils sont dans un fauteuil et en effet, ils voient mal. Mais dès le moment où on leur met des sandales de basket et un ballon dans la main, ils se mettent à courir comme des fous et ils marquent des paniers de très loin. Donc ils ont tout d'un coup une amélioration une amélioration de la vision. Et c'est pour ça que je suis assez fier d'avoir, il y a déjà 20 ans ou 30 ans, écrit un livre sur la vision où je disais « visite ». C'est-à-dire que lorsque le corps est en mouvement, il change complètement sa manière de voir.
Est-ce que vous diriez, alors je sais bien que vous n'aimez pas qu'on revienne comme ça que sur nous les hommes, mais est-ce que l'homme est un animal visuel ?
Oui.
Est-ce que l'homme est un animal visuel ou plus visuel que d'autres ?
Non, je ne crois pas. Je crois que nous avons 5 sens et que le premier de tous les sens, c'est pas forcément la vision. Nous privilégions beaucoup la vision, nous, dans, si vous voulez, nos manières de faire, nos images, etc. Mais on le dira tout à l'heure à propos de l'audition. Mais bon, pour le moment, je dirais que nous avons 5 sens et il y en a un qui est quand même très important puisqu'il est répandu sur la surface totale du corps. C'est le toucher. Et l'œil, que je sache, est réduit à un endroit très déterminé. Il a un point de vue, il a un point, si vous voulez, un site très particulier, alors que le toucher se répand sur la totalité de la peau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous méprisons beaucoup aussi l'odorat, le goût, etc. Non. Dans notre sensorium général, la vision est un équipier, c'est une équipe, on est une équipe de 5 joueurs, comme au basketball, on a 5 sens. Voilà.
Alors, aujourd'hui, c'est donc autour de la question comment voir et être vu, aussi une manière de nous apprendre, alors vous l'avez dit, peut-être aussi un peu à regarder autrement, à se regarder autrement. Vous dites à un moment, dans ce livre, l'homme a trois yeux.
Ah oui.
Et vous parlez aussi de l'œil de Dieu, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire.
Le troisième œil.
Parce qu'il y a un œil, quand même, qui est un œil intellectuel. Et je raconte là une histoire qui m'est arrivée un jour. Un jour, au début de la télé, elle était un peu plus intelligente qu'elle est devenue. On avait recruté deux ou trois savants qui devaient répondre à des questions données par des gens qui n'avaient pas d'instruction, si vous voulez, qui n'avaient même pas le certificat d'études. Et je suis tombé sur une très belle. Coiffeuse, qui m'a demandé eh bien, explique-moi ce que c'est que l'infini, ça fout le camp de partout et j'arrive pas à le voir. Alors je lui ai dit, tu vois, tu prends 10 pommes et tu mets 5 pommes devant, il y en a moins. Et je lui ai dit, vous vous foutez de moi, hein. Non, je ne me fous pas de vous, vous allez voir. Mais maintenant, vous allez mettre des pommes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, jusqu'à l'infini, ça fout le camp, comme tu dis. Très bien. Et en dessous, tu mets seulement le père. C'est-à-dire 2, 4, 6, 8, tu vois. Il n'y en a que la moitié. Oui, monsieur, il n'y en a que la moitié. Eh bien non, puisque chaque fois c'est le double du chose précédent, il y en a autant. Et par conséquent, dans l'infini, la partie est égale au tout. Elle me dit, ah, je vois.
Je vois.
Je vois. Et écoutez, je vois si bien que je vais le dire à mon mari. Vous voyez, c'est-à-dire...
Là, c'est le troisième œil, là.
C'est l'autre œil, vous voyez. C'est-à-dire, tout d'un coup, elle voit... quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une définition tout à fait simple et pratique de l'infini, vous voyez, et c'est l'intuition intellectuelle. Et ça, c'est un œil qui est probablement, alors là, oui, d'accord, qui est probablement, et je m'avance peut-être, notre spécialité à nous, vous voyez. C'est-à-dire, nous autres hommes, nous avons ce troisième œil, que peut-être nous ne partageons pas tout à fait, peut-être avec certains animaux très rapprochés de nous, comme le bonobo, le chimpanzé, peut-être un peu. Mais enfin, là, cette intuition intellectuelle, elle est unique, et c'est celle que je partage avec mes étudiants régulièrement, vous voyez.
Intuition intellectuelle, puis peut-être intuition artistique, hein, il y a de nombreuses nombreuses photos.
Eh bien voilà, et nous y revenons, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une photo réussit, qu'est-ce qu'une toile de génie, c'est celle qui me fait voir autrement les choses. Et ce que je souhaite, c'est que précisément, mon livre fasse voir le monde autrement que les gens l'ont déjà vu.
Et peut-être qu'on se regarde autrement, qu'on se regarde avec un peu plus, parler de l'œil de l'amour aussi.
Oui,
hein,
oui, c'est ça, mais bien sûr, ça, l'œil de l'amour, mais j'en parle peu parce que vraiment, c'est un sujet très connu et très rebattu, si vous voulez. Mais là, c'est ce changement que je souhaite, voilà. Et quand je suis dans un musée, c'est ça, j'ai l'impression que la perception de Rembrandt, que la perception de Soulages, que la perception de Van Gogh est tellement vive et tellement extraordinaire qu'elle me regarde presque, que ce tableau me regarde activement et qui participe au changement de regard que je peux avoir.
On a les yeux partout aujourd'hui autour de la question comment voir et être vu. The Alan Parsons Project sur RFI, Eye in the Sky.
Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows.
Carson Project sur RFI, Eye in the Sky. Autour de la question comment voir et être vu, nous continuons de découvrir les yeux dans les yeux, le dernier ouvrage du philosophe Michel Serres. Avec tout de suite une question pour vous, c'est celle du professeur Jean-Pierre Changeux, éminent neurobiologiste, qui vient de publier lui Les neurones enchantés.
La question que je pose à Michel Serres, c'est la relation entre vision et audition. Comment la voit-il ? Parce que il se trouve que en ce qui concerne le langage écrit, il y a stimulation des aires auditives lorsqu'on lit. Donc il y a une connexion très intime entre vision et audition, au moins en ce qui concerne le langage écrit.
Est-ce qu'il y a une connexion plus intime qu'on ne le pense?
C'est une connexion très très importante et très fondamentale. En effet, lorsque le langage est écrit, il stimule évidemment la vision. Lorsque le langage est oral, il stimule l'audition. Et par conséquent, il faut décider pour savoir lequel de ces organes-là reçoit le plus d'informations. Alors voilà, sur ce point, je crois pouvoir vous raconter une histoire simple que je raconte dans mon livre. Je suis reçu dans les années 50, etc., ça n'a pas d'importance, à l'école normale supérieure avec un aveugle. Un aveugle donc qui, lui, n'a pas de vision. Il est un aveugle né. Et il rentre avec moi à l'école normale, section lettres. Et savez-vous qu'il sort 3 ans après agrégé de mathématiques? C'est-à-dire qu'il change, il bifurque tout d'un coup. Il fait une performance intellectuelle telle que la plupart des gens de la promotion étaient incapables de la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il était aveugle. Et par conséquent, on s'aperçoit là, et si on se retourne dans l'histoire, on s'aperçoit qu'Homère était aveugle, on s'aperçoit que Milton était aveugle, que la plupart des grands compositeurs comme Vierne étaient aveugles, etc. Et donc on a un panel d'aveugles, de génies dans toute l'histoire, vous voyez. Et il n'en est pas de même tout à fait des sourds. Et on a beaucoup de difficultés en pédagogie, je parle des sourds muets bien entendu, qui eux voient, mais qui voient très bien, mais qui ont beaucoup plus de difficultés, vous voyez, à rentrer dans les performances intellectuelles.
Évidemment, on peut plus se passer de la vision et imaginer dans notre cerveau et
bien
que
voilà,
de se passer de l'audition.
Eh bien voilà, tout à l'heure j'ai parlé du match de l'audio contre le visuel. Eh bien je crois bien que vous êtes gagnant, vous, à la radio par rapport à la télé. Et que quand je vois des livres de pédagogie bourrés d'illustrations, ça n'avance sans doute à rien, ou à peu de choses.
Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus visuel, hein, quand même, qui nous bourre d'images.
Oui, l'image est probablement beaucoup plus pauvre qu'on ne le croit. Alors qu'au contraire, le son, et je le vois très bien aux États-Unis, avec ce que j'appelle le pauvre point, le PowerPoint. Le PowerPoint répond à la question de changeux. C'est-à-dire, au lieu d'entendre le cours, on le lit, on le voit, si vous voulez. Et si vous saviez les catastrophes que fait au point de vue pédagogique, le pauvre point, il faut avoir enseigné comme moi aux États-Unis pendant 50 ans pour le voir. C'est-à-dire qu'en effet, je crois pouvoir répondre à M. Changeux que l'audition peut-être transporte plus d'informations que la vue et que le son est peut-être supérieur à l'image, contrairement à tout ce qu'on dit.
Contrairement à tout ce qu'on dit aujourd'hui, alors vous nous faites plaisir, nous, à la radio, mais ce qui, on s'en rend compte aussi, alors en regardant pour le coup les images de votre livre, yeux, et en lisant vos textes, c'est-à-dire qu'au fond, ça nous permet ces autres visions, parce que vous nous montrez des autres visions, d'imaginer, en fait, d'imaginer dans notre cerveau d'autres visions et d'autres manières de voir,
C'est le renversement dont j'ai parlé pendant toute l'heure où vous m'avez interrogé, c'est-à-dire de renverser notre regard, vous voyez. Mais, je le répète, la question de monsieur Changeux était profonde parce qu'elle touche le langage. Parce qu'à un certain moment, l'humanité entière parlait, c'est-à-dire il n'y avait que le langage oral, et tout d'un coup, elle s'est mise à écrire. Et par conséquent, elle sollicitait la vue. Et par conséquent, là, il y a eu une sorte de relais entre l'audio et le visuel, sur le même point, c'est-à-dire sur le langage. Alors, qu'est-ce que le langage et comment le langage pénètre-t-il le mieux dans tout ce système neurovégétatif ou neuronal dont M. Changeux est l'éminent spécialiste, vous voyez ce que je veux dire? Bien, moi, je serais enclin à dire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que finalement, la parole est peut-être supérieure à l'écrit au point de vue du sensoriel. Voilà.
C'est important, et c'est important aussi pour vous qui décryptez quand même toutes nos mutations à venir. Vous êtes l'auteur de Petites Poussettes, oui, vous réfléchissez aussi beaucoup à toutes ces nouvelles technologies, dont beaucoup sont quand même visuelles, font appel à ce sens-là.
Pas toutes, parce que le portable envoie des messages.
On se sert du toucher avec notre pouce.
Il y a le toucher, il y a le pouce, il y a aussi l'audition, puisque quand même, on envoie non seulement des textos, mais des messages oraux. Aujourd'hui, au contraire, c'est très multisensoriel, les nouvelles technologies.
Ça vous plaît, Michel Serres.
Oui, sans doute, c'est ça.
Alors, il y a une image de vous dans ce livre. Il y a une image de vous casquée dans la grotte de Lascaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, vers l'âge de 12 ans ou 13 ans, comme j'étais originaire de ce coin-là, on m'a raconté qu'on avait trouvé une grotte extraordinaire. J'ai pris mon vélo et j'y suis allé. Et je me souviens très bien de l'éblouissement, parce qu'on est rentré là, aux grottes de Lascaux, comme on rentre n'importe où. Il n'était pas gardé, c'était juste le début de la découverte avec l'abbé Breuil. Et je me rappelle très bien l'impression extraordinaire que j'ai eue. J'ai tombé par terre d'extase, vous voyez, de voir des choses pareilles. Et puis, je n'avais pas revu, je n'ai pas eu l'occasion, etc. Et puis, dans une maison qui s'appelle Dassault Systèmes, c'est-à-dire des gens qui s'occupent
d'images en 3D.
Exactement, en 3D. Ils ont fait dans une sorte de labo les grottes de Lascaux en virtuel. Et j'ai retrouvé ma vieille intuition d'enfance, dans l'image dont vous parlez, là. Et en effet, c'est intéressant parce que vous traversez les murs. Vous prenez de l'altitude, vous prenez au contraire,
vous êtes dedans, en immersion totale, dans
la grotte de Lascaux. Et c'est une perception tout à fait nouvelle. Là, vraiment, on la visite. On la voit, non seulement on la voit, mais on la visite.
On la visite. Alors, pour continuer à ce genre d'expérience, c'est page 108 de votre livre, je le signale à nos auditeurs internautes, il y a une expérience à vivre sur un site, dont le lien est sur notre page, All Eyes on Paris, dans lequel on peut se mettre, permet de voir comme le faucon, comme le rat, comme le chat, et comme l'abeille, expérience assez étonnante qui nous met dans une autre vision du monde.
Voilà, je l'ai mis aussi dans mon livre. Il y a une page où il y a effectivement des images du monde tel que le voit tel et tel animal.
Autour de la question, en hommage à Michel Serres, philosophe généreux, esprit libre et curieux, à lire, à relire sans modération, chers amis auditeurs et internautes, plongez-vous dans son œuvre multiforme, savoureuse et inspirante pour continuer de porter un autre regard sur le monde, sur nous-mêmes et sur tous les autres. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de nos rediffusions estivales des grandes voix de la recherche. Nous rendrons hommage à un chercheur d'exception, visionnaire et pionnier de la lutte contre le paludisme sur le continent, le professeur Ogbara Dumbo, internationalement reconnu et trop tôt disparu, mais dont l'œuvre se poursuit sur le continent africain. Merci pour votre écoute attentive. Je vous rappelle que vous pouvez nous podcaster à volonté sur vos applications favorites. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, vous retrouverez les informations sur la Radio Mondiale.